Merci d'écouter RFI, 6h à Paris, 5h en temps universel.
Andréane Mélard.
Et bonjour Gaëtan Plenel.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
À la une de votre journal, les leçons de l'après-Bachar en Syrie.
Les cours ont repris hier, une semaine après la chute du régime sanguinaire. Reportage à suivre dans un lycée de Homs, dans l'ouest du pays. Israël annonce la fermeture de son ambassade à Dublin. L'État hébreu dénonce des politiques anti-israéliennes extrêmes de la part de l'Irlande. Dans ce journal également, les recherches en cours à Mayotte après le passage dévastateur du cyclone Chido. Les autorités disent craindre plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de morts. On va revenir aussi sur la visite éclair du pape François hier en Corse. Et puis on terminera en musique avec de vieux standards de groove africain ressuscités dans un même album.
L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a rencontré hier le chef d'Ayat Tahrir al-Sham.
Ou HTS, le groupe qui a mené la coalition de rebelles qui a fait tomber le régime de Bachar al-Assad au terme d'une offensive éclair. Les deux hommes, peut-on lire dans un communiqué publié par cette coalition sur Telegram, ont discuté des changements survenus sur la scène politique et qui rendent nécessaire une mise à jour de la résolution 2254 du Conseil de sécurité de l'ONU, une résolution adoptée en 2015 et qui établissait une feuille de route pour un règlement politique en Syrie. Mais ce sont les armes qui ont tranché et Bachar al-Assad a fui. Hier, après une semaine d'interruption, les cours ont repris en Syrie. Nos envoyés spéciaux Muriel Paradon et Boris Vichit se sont rendus dans un lycée de Homs dans l'ouest syrien pour tenter de comprendre les attentes des élèves et de leurs professeurs après des années de guerre. Reportage.
C'est une rentrée en fanfare dans le lycée de Khulnata à Homs. Les élèves, toutes des filles, célèbrent la chute de Bachar al-Assad. Agel, 16 ans, espère que le temps de la propagande à l'école est enfin terminé.
On étudiait l'histoire du parti Baath et de Bachar el-Assad, que c'était un bon président qui nous aidait. Nous savions que c'était un tissu de mensonges, qu'il tuait les gens. Et maintenant, on va pouvoir le dire en public.
Mohamed Rajoub est professeur de littérature arabe. Lui souhaite pouvoir enseigner librement à l'avenir sans avoir peur d'être dénoncé et arrêté.
J'ai été jeté en prison deux fois par le régime Assad. Un de mes collègues qui travaillait ici avait écrit un rapport avec de fausses accusations sur moi.
Il est trop tôt pour dire si les programmes scolaires vont changer avec le nouveau pouvoir et de quelle manière. Mais pour Rafa, professeur de français, l'éducation devrait permettre de rassembler tous les Syriens.
Il faut travailler ensemble, il faut travailler bien, il faut construire notre pays. Une nouvelle Syrie, c'est très bien.
Une nouvelle Syrie qui devra se construire avec les nouvelles générations. Muriel Paradon, Boris Vichit, Homs, RFI.
Et quelles seront les relations entre cette Syrie nouvelle et l'Union européenne? Ce sera au menu d'un Conseil des affaires étrangères tout à l'heure à Bruxelles, en présence donc des ministres européens des affaires étrangères. Alors pour l'heure, l'UE n'a pas annoncé de levée de sanctions qui pèsent contre la Syrie depuis des années, mais dit vouloir entrer en contact prochainement avec les nouvelles autorités. Le Qatar l'a fait dès hier et annonce la réouverture de son ambassade à Damas à partir de demain. Celle de la Turquie a déjà rouvert. La Turquie qui se dit prête à fournir de l'aide militaire au nouveau gouvernement syrien si ce dernier lui en faisait la demande.
Israël, de son côté, poursuit ses frappes en Syrie.
Il y en a eu des centaines déjà depuis la chute de Bachar al-Assad. Hier, elles ont visé des sites militaires sur la côte syrienne dans la région de Tartous. C'est ce qu'affirme l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui évoque les frappes les plus lourdes menées là-bas depuis 2012. Et le gouvernement israélien a approuvé hier un projet porté par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il vise à doubler la population dans la partie du plateau du Golan annexée par l'État hébreu en 1981. À quelques heures après la victoire de la coalition rebelle, l'armée israélienne avait envoyé des chars dans la zone tampon contrôlée par l'ONU et qui sépare les deux pays. Pour autant, Benjamin Netanyahou l'affirme, nous n'avons aucun intérêt à contrôler, à se confronter à la Syrie. Il dit que son pays définira sa politique envers Damas en fonction de la réalité sur le terrain. L'armée israélienne qui poursuit dans le même temps ses frappes à Gaza, elles ont fait au moins 40 morts hier, selon la défense civile locale, à Gazaville, mais aussi dans un camp de déplacés de Dar el-Bala ou encore dans une école de Ran Younes qui l'a encore accueilli des réfugiés.
Et dans le sillage de la guerre au Proche-Orient, ces tensions diplomatiques entre Israël et l'Irlande.
Le ministère israélien des affaires étrangères a annoncé hier la fermeture de l'ambassade de l'État hébreu à Dublin. Raison invoquée dans le communiqué, les politiques anti-israéliennes extrêmes de l'Irlande qui auraient franchi, je cite, toutes les lignes rouges. Correspondance à Dublin de Clémence Pénard.
Une décision profondément regrettable, réagit le Premier ministre irlandais Simon Harris, qui déclare sur X rejeter catégoriquement l'affirmation selon laquelle l'Irlande est anti-israélienne. Il ajoute en revanche que l'Irlande est pro-paix, pro-droit de l'homme et pro-droit international. La fermeture de l'ambassade intervient après la décision de l'Irlande mercredi dernier de soutenir l'action en justice de l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Pourtant, Israël n'a pas appliqué de mesures similaires à d'autres pays, notamment l'Espagne, qui a, elle aussi, annoncé son intention d'intervenir. Mais le mois dernier, Simon Harris annonçait que Benjamin Netanyahou serait arrêté s'il se rendait en Irlande suite à l'émission d'un mandat d'arrêt par la Cour pénale internationale. Et en mai, déjà, l'Irlande avait reconnu l'État palestinien. L'ambassadrice israélienne à Dublin avait alors immédiatement été rappelée en Israël. Dans son communiqué, le chef de la diplomatie israélienne a dit vouloir se concentrer sur d'autres pays. Il a évoqué l'ouverture d'une nouvelle ambassade en Moldavie. Clémence Pénard, Dublin, RFI.
On espérait un accord de paix dans l'est de la RDC au terme d'une rencontre entre les présidents congolais et rwandais. Eh bien, pas d'accord, puisque pas de rencontre. Elle a été annulée à la dernière minute hier. Le chef de l'État rwandais, Paul Kagame, ne s'est finalement pas rendu à Luanda, en Angola, où était donné le rendez-vous. C'est la mention d'un dialogue direct entre la RDC et les rebelles du M23, voulu par Kigali, qui aurait provoqué l'échec des négociations. C'était une ligne rouge fixée par Kinshasa.
RFI, 8h06 à Mamoudzou, à Mayotte, où le jour se lève à nouveau sur des villes dévastées.
Le cyclone Chido a fait des ravages dans cet archipel français de l'océan Indien. Et le préfet l'admet, les morts pourraient se compter par centaines, voire par milliers. Les moyens de communication sont toujours très perturbés et l'inquiétude grandit pour celles et ceux qui n'arrivent pas à joindre leurs proches. C'est le cas à Madagascar où étudient près de 3000 Comoriens. Beaucoup d'entre eux sont toujours sans nouvelles de leur famille. À Antananarive, Guilhem Fabry.
Chaque heure, presque depuis cette catastrophe, j'essaie d'appeler.
Cela fait deux jours que Swali Ali Mansour, président de l'association des étudiants comoriens de Madagascar, essaye de contacter son frère Jamel et un cousin qui se trouve à Mayotte. Mais son téléphone sonne désespérément dans le vide.
Votre correspondant n'est pas joignable. Vous pouvez le rappeler ultérieurement.
Et jusqu'à maintenant, je n'arrive pas à entrer en contact avec eux. J'ai appelé la famille qui sont à la Grande Comore, mais eux aussi n'arrivent pas à entrer en contact avec eux. Donc toutes les Comoriens sont très inquiètes parce qu'on a toutes les familles partout dans les îles.
Dans son appartement d'Antananarive, Swali Ali Mansour ne lâche pas des yeux son écran de télévision où défilent les dernières nouvelles de Mayotte sur les chaînes d'information françaises.
Tout le monde n'a pas forcément les moyens d'aider, mais on compatit sur la situation dans l'île de Mayotte. Et nous souhaiterons aussi aux autorités qui sont sur place de mettre tous les moyens possibles pour essayer d'aider les habitants de Mayotte. Surtout pour les installations sanitaires, parce que j'ai vu que l'hôpital a été lourdement touché, mais aussi pour le rétablissement des lignes de communication, parce que si on arrive à entrer en contact avec la famille, l'inquiétude sera peut-être baissée.
En plus de l'eau et de l'électricité, le préfet de Mayotte a cité hier soir la téléphonie mobile comme besoin essentiel à rétablir au plus vite pour la population. Guillaume Fabry, Antananarive, RFI.
Et les ministres français des missionnaires de l'Intérieur et des Outre-mer sont attendus à Mayotte dans la matinée. Un pont aérien et maritime a été mis en place depuis l'île de la Réunion à 1400 km de là pour envoyer du matériel et du personnel de secours.
Et le pape François a exprimé son soutien aux habitants de Mayotte.
Il l'a fait depuis une autre île française, celle de Corse en Méditerranée cette fois. Il était là-bas en visite hier, alors il n'est pas resté longtemps, à peine 9h. Le résumé de cette visite avec notre envoyé spécial à Ajaccio, Marie Casadebé.
Un déplacement beaucoup moins politique qu'en septembre 2023, lorsque François était allé à Marseille pour rendre hommage aux migrants et dénoncer les États qui refusent de les accueillir. Le pape était officiellement venu à Ajaccio pour clore un colloque sur la religiosité populaire. Il s'est attaché à cette thématique. Pour néanmoins appeler à une laïcité moins statique et figée, François a pris pour exemple la laïcité saine à la Corse, où les rites et rituels populaires trouvent leur place dans l'espace public. On notera aussi l'omniprésence d'un homme aux côtés du pape durant cette visite. L'évêque d'Ajaccio, François Bustillo, fait cardinal l'année dernière. C'est à lui et à la relation très particulière qu'il entretient avec François que la Corse doit cette visite papale. A contrario, la discrétion d'Emmanuel Macron, le président de la République n'a retrouvé le pape qu'à l'aéroport en fin de journée pour un court entretien. Rappelons qu'à Marseille, sa présence à la messe avait provoqué la polémique. Ses opposants lui avaient rappelé les principes de la laïcité, encore elle, en France. Marie Casadebé, Ajaccio, RFI.
En Corée du Sud, le chef du parti au pouvoir démissionne. Décision prise après la destitution du président Yoon Suk-yeol, votée par les députés. Ça doit encore être confirmé par la Cour suprême du pays, qui a 6 mois pour le faire. Elle tient d'ailleurs sa première réunion aujourd'hui.
De nouveaux affrontements violents hier en Haïti entre gangs et forces de l'ordre.
Ça s'est passé dans un quartier de la capitale Port-au-Prince, en partie contrôlé par ces groupes armés. Plusieurs personnes ont été tuées, notamment, la police l'a confirmé, le bras droit de celui que l'on surnomme Barbecue, un ex-policier reconverti en chef de gang, l'un des plus violents et des plus influents du pays. Correspondance à Port-au-Prince de Peterson Luxama.
C'est un gros coup que la police nationale a asséné à la coalition Vive Ensemble. Jimmy Chérizi, alias Barbecue, est désormais privé de l'un de ses plus importants soldats, Kendi ou Jeff Mafia, présenté comme son numéro 2. Il était environ de 4h du matin quand la coalition criminelle Vive Ensemble a lancé une attaque coordonnée contre plusieurs quartiers de la capitale, dont Badelma, Nazon, Avenue Pouplard et Poste Marchand. Des blessés ont été recensés, plusieurs maisons ont été également incendiées. Selon le porte-parole, la police se dit déterminée contre les gangs armés en vue de faire revenir le calme dans la capitale. Malgré ce coup important contre la bande à Barbecue, la guerre contre les gangs est loin d'être terminée. La population, quant à elle, attend des résultats concrets pour retrouver un semblant de paix dans la capitale. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
Et ce sera notre choix musical du jour sur RFI, des petits trésors de groove africain qui retrouvent une nouvelle vie dans un même album.
Et ça s'appelle Nigeria Spécial Volume 3, une résurrection amplement méritée. Selon vous, José Marinho.
Dans la compilation Nigeria Spécial Volume 3, on y découvre 19 trésors effacés des mémoires publiés dans les années 70 et dans lesquels, comme le sous-titre l'indique, l'innovation électronique rencontre la culture et la tradition. En 1970, l'arrivée des nouvelles technologies bouleverse le paysage musical du Nigeria. Synthétiseurs, boîtes à rythme et des styles qui y sont associés, pop, disco, soul, rock et funk, se télescopent avec des genres locaux, résultat de l'afrobeat aux sonorités occidentales ou du highlife en version dub, comme ici par le chanteur et compositeur nigérian Sonny Okusun. Loin d'être tous édifiants, ces titres d'illustres inconnus ont le mérite d'avoir jeté les bases de l'afrobeats avec un S, véritable phénomène musical au Nigeria, dont la plus grande star de ce style urbain est Burna Boy aujourd'hui.
Nigeria Spécial Volume 3, le choix musical du jour avec José Marinho, ce sera juste avant 9h, heure de Paris.
Et vous, on vous retrouve à 8h pour un nouveau journal. Merci Gaëtan Plenet. 6h13 à Paris et Abuja, RFI Matin. C'est le début de notre matinée ensemble. 3h qui nous emmèneront ce matin en Syrie, dans la bande de Gaza, au Sénégal, en Mongolie, au Nigeria, après le sommet de la CEDEAO hier, également en Allemagne, en France, à Paris, en Corse, après la visite du pape, mais aussi à Mayotte, après ce qui est déjà considéré comme le cyclone le plus intense depuis 90 ans sur l'île. Chido a dévasté Mayotte samedi et depuis les autorités redoute un bilan humain très élevé, des centaines, voire des milliers de morts attendus, a dit hier le préfet de Mayotte. Vous l'entendrez dans 5 minutes. Ce matin, on écoutera aussi l'inquiétude exprimée, notamment par les Comoriens, inquiets de ne pas avoir de nouvelles de leurs proches depuis le drame.
Mais on est abattus, on est inquiets. Personnellement, je sais que j'avais des parents qui avaient des logements de fortune. Et c'est là aussi, c'est ça le plus inquiétant.
Ce reportage à écouter au cours de la matinée sur RFI est pour parler de la France, de Mayotte, mais aussi des premières consultations du nouveau Premier ministre François Bayrou, notre invité international ce matin, et l'ancienne ministre de l'Europe, actuelle eurodéputée et secrétaire nationale à l'international du Parti Horizon, Nathalie Loiseau, entretien avec Arnaud Pontus à 7h20. Autre invité ce matin, Wolfram Lascher, grand spécialiste l'est de la Libye. Il nous dira quelles conséquences stratégiques va avoir la chute de Bachar al-Assad en Syrie sur ce pays. Rendez-vous dans une demi-heure. L'avenir des bases militaires russes en Syrie, justement, c'est notre dossier du journal de 8h ce matin. Nous irons aussi dans la bande de Gaza, frappée quotidiennement par Israël, et la situation sur place continue de se dégrader, comme à l'hôpital des martyrs d'Al-Aqsa, l'un des rares encore en service.
C'est de plus en plus dur, on n'a pas assez de matériel, pas assez de lits. Vu la situation, on a déclenché le plan d'urgence maximal, mais on n'a rien, c'est trop dur pour nous.
Reportage de Rami Al-Merari et Pierre-Olivier, écouté dans le journal de 7h, RFI Matin. Vous le savez, c'est aussi, comme chaque jour, la presse, le sport, nos journaux. Chaque demi-heure, vous avez une partie du programme, on peut commencer. Et on part en Chine tout de suite pour notre rendez-vous, la une en Asie. La Chine qui étend son programme de fonds de pension privés à l'échelle nationale après une phase pilote lancée en 2022 dans 36 villes. Un système conçu pour faire face aux défis du financement des retraites et qui a déjà montré ses limites, à savoir des performances peu convaincantes et un manque d'engouement des investisseurs. Une réforme qui intervient alors que le gouvernement chinois prévoit de repousser l'âge de la retraite dès l'année prochaine, et cette décision suscite de vives réactions sur place. On en parle ce matin avec notre envoyée spéciale permanente à Pékin. Bonjour Cléa Broadhurst.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Dans les faits, Cléa, ce nouveau système de pension de retraite, qu'est-ce que ça signifie pour la population chinoise ?
Alors ce programme permet aux travailleurs chinois de cotiser jusqu'à 12 000 yuan, soit environ 1 650 dollars, sur des comptes à l'abri dans l'impôt, un dispositif semblable d'ailleurs aux comptes de retraite individuelle aux États-Unis. Ce programme est mis en place dans le cadre de la réforme des retraites et il vise à répondre aux défis d'une société vieillissante. Et pour cause, d'ici 2035, plus de 400 millions de Chinois auront 60 ans ou plus. Alors souvent qualifié de troisième pilier du système de retraite chinois, ce programme rencontre toutefois des obstacles. Car sur plus de 60 millions d'inscrits, seuls 22% des participants ont en effet effectué des dépôts. L'objectif de cette expansion est donc clair, atténuer les pressions financières qui pèsent sur le système public dans un contexte où la population active diminue alors que le nombre de retraités augmente. Et en encourageant l'épargne privée, Pékin espère assurer la viabilité financière du système à long terme et ainsi réduire la dépendance aux fonds publics.
Mais l'économie chinoise n'est pas au beau fixe.
Et oui, effectivement, la Chine tente de réorienter son économie, longtemps axée sur les exportations, vers une croissance tirée par la consommation intérieure. L'expansion des pensions privées pourrait donc jouer un rôle clé en renforçant la sécurité financière des retraités. Cela pourrait inciter à davantage de dépenses et soutenir cette transition économique. De plus, un système de retraite solide pourrait limiter le besoin d'épargne excessive. Et ainsi, les ménages auraient plus de revenus disponibles à consacrer à la consommation durant leur vie active. Les fonds de pension privés devraient également investir dans divers instruments financiers, important des capitaux à long terme au marché chinois. Et cela pourrait renforcer leur stabilité et favoriser leur développement. Et enfin, un système de retraite bien structuré pourrait rassurer les investisseurs, aussi bien nationaux qu'internationaux, et ainsi attirer davantage de capitaux.
Et ça pourrait aussi, Cléa, avoir un impact global.
Tout à fait, parce qu'avec cette réforme, les gestionnaires d'actifs, les assureurs, les autres prestataires financiers internationaux pourraient trouver de nouvelles opportunités sur le marché chinois. Et par ailleurs, un système de retraite performant renforcerait cette stabilité économique en Chine. Et étant donné qu'elle a le poids qu'elle a dans l'économie mondiale, les effets se feraient ressentir au-delà de ses frontières. Et en favorisant l'épargne structurée, ce dispositif pourrait réduire les inégalités sociales et s'inscrit dans une série de réformes visant à moderniser l'économie chinoise. Ce n'est donc pas seulement une mesure de politique intérieure, mais bel et bien une initiative stratégique aux implications économiques et sociales majeures.
La une en Asie sur RFI à Pékin avec Cléa Broadhurst ce matin. Merci Cléa. L'actualité de ce lundi, ce sont aussi les premières consultations en France menées par le Premier ministre fraîchement nommé François Bayrou. Bonjour Arnaud Pontus.
Bonjour Andréane, bonjour à tous.
Vous allez l'évoquer ce matin avec votre invitée, la députée européenne secrétaire nationale à l'international du Parti. parti Horizon et ancienne ministre de l'Europe, Nathalie Loiseau.
Oui, elle nous dira ce qu'elle pense du nouveau Premier ministre français, de ses marges de manœuvre et des priorités qui doivent être les siennes. Nathalie Loiseau était par ailleurs en fin de semaine dernière à Tbilissi, en Géorgie, avec un groupe de députés européens. Elle a rencontré la présidente sortante, les représentants de l'opposition et des manifestants pro-européens. Alors que le Parlement géorgien vient de désigner un nouveau président pour le pays, elle nous dira ce que l'Europe peut faire et doit faire pour soutenir ceux qui dénoncent les fraudes et l'ingérence russe. Avec Nathalie Loiseau, on évoquera aussi la Syrie, 8 jours après la chute de Bachar el-Assad. Rendez-vous tout à l'heure.
A tout à l'heure Arnaud, entretien 6h20, temps universel.
RFI Matin.
Et ça va être l'un des dossiers urgents à gérer pour le nouveau gouvernement français. Mayotte ravagée samedi par le passage du cyclone Chido et des rafales de vent jusqu'à 220 km/h. Ce cyclone est le plus intense jamais connu par le territoire depuis 90 ans. Un peu plus de 24 heures après, les images montrent toujours un paysage désolé, des villes dévastées dans le département français. En ce qui concerne le bilan humain, il semble difficile à chiffrer. À ce stade, les autorités redoutent plusieurs centaines de mort, c'est ce qu'a affirmé hier soir le préfet de Mayotte, François-Xavier Bieuville, au micro de nos confrères de Mayotte la Première. On l'écoute.
Nous avons un décompte qui est lié à l'hôpital, donc des personnes que nous avons pris en charge à l'hôpital. Nous avons eu 9 décédés, 5 personnes en urgence dépassées, donc des personnes qui a priori vont perdre la vie. On a 5 urgences absolues et puis nous avons 246 personnes en urgence relative, donc des personnes qui sont blessées mais qui s'en sortiront. Mais ce résultat là n'est pas plausible. Quand on voit les images des bidonvilles notamment, je n'imagine pas que nous n'ayons malheureusement pas plus de victimes, que je ne pourrais pas décompter. Je le dis de façon officielle. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Mais il est évident que, vu la violence de cet événement, nous l'avons tous vécu dans notre chair. Donc cet événement, forcément, il a un décompte beaucoup plus important. Nous essaierons de le faire, voilà, parce qu'il nous appartient, évidemment, de dresser ce bilan.
D'énormes dégâts dans tout Mayotte. On a une estimation sur ces dégâts.
Je crois que l'heure est au relèvement, désormais. Nous avons travaillé d'arrache-pied pour établir un pont aérien entre l'Hexagone, La Réunion et Mayotte, avec du personnel, avec des moyens médicaux, avec de la logistique, pour commencer à reconstruire, à se relever. Et puis enfin, rétablir les fonctions vitales, fonctions de l'hôpital qui fonctionne désormais avec de l'électricité, le rétablissement de l'eau. C'est ce que nous avons travaillé avec les eaux de Mayotte pour faire en sorte que l'eau soit rétablie. J'avais pris la précaution avant l'événement de faire remplir les cuves pour que, au moment où l'événement serait passé, nous soyons en capacité d'ouvrir ces cuves pour délivrer de l'eau très rapidement. C'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut savoir aussi que les 4 usines d'eau ont été terriblement endommagées, des toitures ont été arrachées. Donc c'est tout ce travail-là de fond désormais qu'il faut engager et travailler d'arrache-pied pour établir l'eau, l'électricité, la téléphonie, ces besoins qui sont essentiels à la population.
On l'a vu, pendant toute cette période de crise, et même d'avant-cyclone, vous avez beaucoup averti, beaucoup communiqué, notamment à travers vos messages d'alerte sur les différents portables de la population. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous changeriez ?
Nous avons fait énormément. Dans les 2 jours qui ont précédé, on a ouvert 120 centres. On a mis à l'abri à peu près 10 000 personnes. Donc nous ferions encore plus s'il le fallait. Je pense que nous n'avons pas suffisamment fait. Il faudra faire la prochaine fois encore plus, je ne l'espère pas. Mais avec un retour d'expérience, peut-être se poser la question de ce que nous pouvons faire encore plus. Ouais.
François-Xavier Bieuville, préfet de Mayotte, au micro de nos confrères de Mayotte la Première. Les conséquences du passage du cyclone Chido, on y revient dans le prochain journal à 6h30. Vous entendrez le président de l'association comorienne Oucha Babi. Il tente d'organiser la solidarité sur place. Restez à l'écoute d'RFI. Et tout de suite, à notre question d'environnement. On s'intéresse ce matin aux droits des peuples autochtones qui sont directement liés, on va en parler, à la protection de la nature. Bonjour Jeanne Richard.
Bonjour.
Vous nous parlez donc ce matin d'une lutte de près de 10 ans qui a marqué le Canada, celle du peuple autochtone Wet'suwet'en contre la construction du gazoduc Coastal GasLink sur leur territoire en Colombie-Britannique, dans l'extrême ouest du pays. Jeanne, une semaine d'audience judiciaire vient justement de se terminer au Canada à ce sujet. Oui, pendant 3 ans, la GRC, la Gendarmerie Royale du Canada, a effectué plusieurs raids sur les barrages mis en place par les Wet'suwet'en pour entraver la construction du pipeline. Ce qui a choqué l'opinion, c'est l'ampleur de la répression avec des chiens, des hélicoptères et des fusils d'assaut face à de simples barricades de bois. Il y a 3 ans, lors d'un de ces raids, plusieurs membres de la Première Nation Wet'suwet'en sont arrêtés et en janvier dernier, 3 d'entre eux ont été reconnus coupables d'outrage criminel pour avoir voulu empêcher les travaux. La justice leur avait en effet interdit d'approcher du pipeline. Mais cette condamnation est suspendue pour l'instant car les Wet'suwet'en estiment que la GRC fait un usage excessif de la force, qu'elle s'acharne sur eux. Si la justice le reconnaît, alors les autochtones pourraient échapper à la prison, verdict courant 2025.
Ils échapperaient à la prison pour s'être opposés à ce pipeline qui traverse les terres dont ils sont propriétaires.
Oui, à l'origine, un gazoduc de 670 km de long à travers les montagnes rocheuses canadiennes pour transporter du gaz de schiste, particulièrement polluant, jusqu'à la côte où il doit être liquéfié pour être vendu sur les marchés asiatiques. Un projet voulu par les autorités canadiennes et les industriels. Le problème, c'est que les chefs traditionnels des Wet'suwet'en s'y opposent, mais n'ont jamais été consultés, alors que ces terres leur appartiennent. Oui, elles n'ont jamais été cédées à l'État canadien. Freda Housson est l'une des figures de la lutte des Wet'suwet'en.
Toute la végétation et la vie sauvage vont être anéanties sur le tracé. Toutes les rivières, les cours d'eau qui abritent les saumons. Nous sommes un peuple de pêcheurs, nous dépendons de ces saumons. Et aussi des baies, des remèdes, des arbres qui purifient l'air. Nos voisins en Alberta ont déjà vécu cela. Les peuples autochtones ont perdu leur tradition. Ils ne peuvent plus pêcher ni chasser à cause de la pollution. Et il y a de nombreux morts à cause de cancers rares. Leur histoire nous a alertés sur ce que sont vraiment ces industries extractives. Et on ne veut pas perdre notre mode de vie. C'est ce qui nous définit. Nous sommes la terre est en nous.
Alors, Jeanne, on le voit, la relation des peuples autochtones à la nature est bien plus forte que dans nos propres sociétés.
Et c'est justement cela qui est précieux. La science montre que les zones gérées par les peuples autochtones sont en meilleure santé que les autres espaces naturels. Le programme des Nations Unies pour l'environnement reconnaît d'ailleurs qu'il sera impossible de maintenir le réchauffement climatique à un niveau vivable sans ces peuples et leur savoir. Pour préserver notre planète, il est donc essentiel de reconnaître leurs droits à gérer leur propre territoire.
Jeanne Richard pour la question d'environnement. Merci à vous. Et tout de suite, un petit peu de musique jusqu'au retour de l'info sur RFI. C'est notre playlist ce mois-ci. Kiss Daniel, chanteur et auteur-compositeur nigérian, devenu célèbre en 2014 avec son premier single Wojo, son nouveau single tout de suite, Maraba.
En coucou, la vous. Just a little bit of alcohol, a little bit of cigarette. I'm already singing bird, I'm already continental, international. I'm killing it, you know I put the fire. Now maybe the follow come, up all up or solo one. Pressure no fi catch me, fully loaded cash. When you see me coming, they say with the body, oh loud, oh loud, oh loud, oh loud. You want to trend up with a door, all over you, all over the door. Tori mo kula mo kuta, kujia kuta mo molekwa. Bottom, 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 money be crazy. Black on black, a layer, mash it back on she layer. Energy like a star, Ramsey like a bastard. The Fulani like Shokoto, Portuguese call Jekoto. Open up with Marapa, I change up with Taliban. She's there with so many boys like Dino and Brother Timini. What up Timini? What you do infinity? Yeah, I can lie more than Jacko Moon, Jacko Sima down. I'm orthopedic, you need to lie down, make up and your back. Only the leg got to love, as you know be on point. I'm already calling another, I shall woo boy. Percocet, go down there, gobble it, oink, oink.
Maraba de Kiss Daniel à retrouver sur notre playlist RFI, sur notre site et sur toutes les plateformes d'écoute. Belle journée, bon réveil à toutes et à tous sur RFI.
quoi ta maladie est crazy.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui,
les femmes deux fois plus touchées par la dépression que les hommes.
Demain,
reportage à Lyon à l'occasion de l'inauguration de l'Académie de l'OMS.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
RFI Talent présente Gabriela Lima. Découvrez Semé Chamarevou, le premier single de l'artiste brésilienne avec Vanille en invité. Disponible sur toutes les plateformes.